Le vieux guide par Jean Rameau. Sur la place des Termes, à Luc de Borne, l'agréable ville d'eau bien connue des excursionnistes, un vieillard se promenait tous les jours à petits pas chancelants sous le costume pittoresque de guide, complet de velours noir, béret de laine bleue et ceinture rouge. Il avait à la main un long bâton ferré, soutenait sur sa hanche une outre en peau de bouc, portait derrière le dos une hachette et un paquet de cordes. Sur sa poitrine creuse, une plaque brillante montrait ces mots « Auguste Lagnereau, guide de première classe ». Cet homme avait de la peine à mettre ses pieds en mouvement. Il paraissait 70 ans au moins. Cela ne l'empêchait pas de se promener autour des touristes et de les saluer avec respect comme pour leur offrir ses services. Inutile de dire qu'ils étaient constamment dédaignés. Auguste Lagnereau avait été, dans sa jeunesse, l'un des guides les plus intrépides et les plus recherchés de Luc de Borne. C'était lui qui, le premier, avait fait pénétrer les excursionnistes dans la magnifique vallée d'Arbel, dont les lacs, les glaciers et les cascades font maintenant l'admiration des étrangers. De la vallée d'Arbel, il avait découvert un sentier praticable pour gravir en 5 heures le fameux pic du Lion Blanc, réputé jusqu'alors inaccessible. En ce temps-là, Auguste Lagnereau était un garçon robuste et nerveux, que les belles touristes regardaient avec complaisance entre deux glaciers. Lui, passionné pour la montagne, ne regardait guère que les chutes d'eau, les plaines de neige, les chaos de rochers, les merveilleux et changeants tableaux de nature au milieu desquels il vivait. Tous les jours, pendant 25 ans, du mois de juin au mois d'octobre, il avait conduit des étrangers à sa vallée d'Arbel, à son pic du Lion Blanc, et chaque fois il goûtait à cette excursion une volonté inépuisable, toujours nouvelle. Quelle douce promenade ! Lagnereau partait après déjeuner vers 12h30. Il se rendait à l'hôtel ou à la villa des étrangers qui désiraient entreprendre la course. Il les menait le long de la Nivette, le torrent impétueux qui traverse la vallée de Luc en faisant des bonds folâtres, comme une gaminette aux jupes blanches qui sauterait dans les prairies. Puis on arrivait aux ruines de Castillon, une tour rougeâtre sur un rocher. Il montrait aux touristes la Nivette capricieuse qui, de connivence avec un autre torrent, faisait au rocher une longue ceinture d'eau écumante. Il étendait son bras gauche et disait « Le vallon d'Aurin », en montrant une folle avalanche d'arbres qui semblait se précipiter d'un cirque de montagnes. Il levait ensuite le bras droit et disait « Le pic de la Cravère », en montrant une brusque érection de cimes blanches par-dessus la crête d'un mont noir. Et la route continuait en suivant la Nivette bondissante et sonore, qui disparaissait tout à coup par un large trou noir et devenait souterraine, invisible, mystérieuse, pour aller reparaître à 500 mètres de là, brillante et inattendue, comme un plongeur capricieux. Alors Lagnereau abandonnait la vallée rétrécie, prenait à droite un chemin caillouteux qui faisait deux lacets sur la pente d'une montagne dénudée, où l'on voyait çà et là un village au perché entre des roches lépreuses. Il s'engageait ensuite sur une pente raide, où il fallait donner la main aux dames, disait en montrant une petite croix au bas d'un rocher vertical, taillé comme une vertigineuse muraille, « 3 Anglais se sont tués ici. » Puis il menait ses clients au bord d'une source ombragée où l'on pouvait se reposer un peu. Enfin, après une montée assez pénible de 3 quarts d'heure, subitement, entre 2 roches de basalte, une longue perspective qui s'ouvre. La vallée d'Arbel. Ici, Lagnereau s'arrêtait et restait silencieux 1 minute, pour permettre à l'enthousiasme des excursionnistes de se soulager. C'était quelques secondes délicieuses, où il entendait les soupirs d'admiration, où il voyait les visages transfigurés. Et il était plus heureux encore que les personnes qu'il conduisait, car il se disait « C'est moi qui ai découvert ceci, moi qui vaut à ces étrangers cette inépuisable extase. » Alors, d'une voix toujours émue, il expliquait le panorama, là-bas le lac bleu, au-dessus la chevelure de la Vierge, c'est-à-dire une cascade éblouissante tombant d'une hauteur de 400 mètres, et se brisant en écume sur des rochers. À gauche, 3 autres cascades étagées sur un plan incliné. À droite, les glaciers resplendissants d'Arbel. Plus haut, un chaos de pierres mornes, la ville d'enfer. Plus haut, enfin, trois cimes neigeuses, étincelantes comme des prismes, roses, bleues ou lilas, suivant les heures du jour, et dont la plus élevée était le lion blanc de l'Agnoreau, le pic farouche et grandiose, d'où l'on dominait toute la chaîne, comme un phare domine une mer écumante et tourmentée. Le guide indiqua alors une auberge où l'on pouvait dîner, où il fallait coucher, et le lendemain, à l'aube, il réveillait les voyageurs, déjeunait sobrement avec eux, puis les conduisait par des rampes difficiles, par des cols bordés de précipices, sur l'arête du pic, d'où la vue était si belle qu'on ne savait rien dire et qu'on devenait pâle d'admiration. À cette époque, l'Agnoreau gagnait 15 francs par jour. Ses frais d'excursion, repas, gîtes, droits de passage étaient payés en outre par les excursionnistes qui l'accompagnaient. Mais il aurait fait l'ascension pour rien, pour le plaisir de revoir les lacs, les cascades, les glaciers. Et en hiver, quand Luc dormait comme une ville morte dans le linceul de ses montagnes blanches, l'Agnoreau revenait parfois seul à sa vallée d'Arvel et essayait, malgré les dangers, de remonter sur la crinière neigeuse du Lion Blanc. À 50 ans, il tomba malade tout à coup et garda le lit plusieurs mois. Sa convalescence dura près de 4 années. Et quand il put se promener à nouveau sur la place des Termes, on le trouva si vieilli, si courbé, si faible, qu'on n'eut plus confiance dans ses forces. L'Agnoreau ne fit plus d'excursion. Sa maladie l'avait ruiné. Il vivait pauvrement chez un neveu qui tenait une maison garnie dans un faubourg de Luc. Le vieux guide n'eut jamais assez d'argent pour entreprendre l'ascension du Lion Blanc à ses frais. Comme bien des vieillards, il se faisait illusion sur sa faiblesse et continuait imperturbablement à revêtir son costume de guide, espérant chaque jour d'été trouver des touristes à conduire. Pendant 20 ans, il espéra ainsi. Auguste Lagnoreau devint un maniaque inoffensif que tout le monde respectait et dont les étrangers connaissaient vite l'histoire. Il regardait les guides, ses successeurs, partir au-devant des excursionnistes. Il considérait avec des yeux mélancoliques une montagne aride, dont le sommet modeste gardait quelques neiges au loin, à l'autre bout de la vallée. Puis, à pas très courts, le corps voûté, les cheveux rares, la mine pitoyable, il allait examiner avec un plaisir d'enfant de belles images à la devanture d'un photographe, des images représentant des glaciers, des cascades, des pics. Toutes les jolies choses qu'il aimait tant jadis et qu'il ne reverrait sans doute jamais plus. Or, un jour de septembre, comme il allait avoir 76 ans, le vieux guide aperçut un jeune couple qui s'approchait de lui. « Pardon, monsieur Lagnoreau, » dit le cavalier. « Pourriez-vous nous conduire, ma femme et moi, à la vallée d'Arbel et au pic du Lion Blanc, demain et après-demain ?» Le vieux guide se redressa. Il pâlit un peu. Rêvait-il? Que de temps écoulé depuis le jour où il avait reçu la dernière question de ce genre? « Mais certainement, monsieur, » répondit-il d'une voix affermie, en dissimulant autant qu'il le pouvait les tremblements de sa main sur son bâton ferré. On convint de l'heure du départ et du prix de l'excursion, et la dame salua très poliment après avoir prié l'Agnoreau d'aller la prendre le lendemain midi à son hôtel. C'étaient deux jeunes mariés qui avaient fait 3 fois déjà cette longue excursion et qui, connaissant l'histoire du vieux guide, avaient la fantaisie sentimentale de le mener au Lion Blanc, sous prétexte de s'y faire conduire par lui. Le bonhomme ne soupçonna rien, et à l'heure dite, il se présenta à l'hôtel pour prendre ses clients. Il faisait beau. L'on se mit en route. L'Agnoreau brossé, astiqué, pomponné, marcha bien durant la première heure. Il faisait du zèle, le couple avait peine à le suivre. Le vieux guide suivait le chemin d'autrefois. Il alla tout guilleret le long de la Nivette, le torrent sonore et plein d'écume qui semble une petite fille aux jupes retroussées sautant au milieu des prairies. Il arriva aux ruines de Castillon. Comme autrefois, il étendit son bras gauche et dit « Le vallon d'Aurin ». Ensuite, il étendit son bras droit et annonça « Le pic de la Crabère ». Sa voix frémissait d'émotion, ses yeux étincelaient de plaisir, ses joues devenaient toutes roses sous leurs rides. Il put encore montrer le gouffre noir où la Nivette se perdait, comme un plongeur capricieux, fit manœuvrer ses jambes, vite, vite, dans les lacets qui suivirent, songea à désigner le précipice où trois Anglais s'étaient tués, puis à la boire longtemps à la source ombragée où il avait bu tant de fois dans sa jeunesse. Mais quand il fallut se remettre en route et gravir la rampe escarpée qui conduisait à la vallée d'Arbel, il essaya bien de donner la main à la dame, comme au bon temps, mais ce fut la dame qui dut le traîner. Le monsieur poussait l'agneau par derrière, sous l'aimable prétexte de s'accrocher à lui. Et le vieux guide n'y vit rien. « Courage, courage !» disait-il parfois à ses compagnons avec sa pauvre voix cassée. « Allons, encore un coup de collier et nous y sommes !» Il s'épongeait bravement le front, et il ne s'arrêtait pas trop longtemps pour reprendre haleine. On le hissa au sommet du plateau sans grande difficulté, et au soleil couchant, on déboucha entre les deux rocs de basalte dans la vallée d'Arbel. Le vieillard fut si heureux qu'il eut la tentation de se mettre à genoux pour baiser le sol. Oh, le lac bleu qu'il revoyait, et la chevelure de la Vierge, et la ville d'enfer, les glaciers resplendissants, les cimes multicolores, au-dessus desquelles le lion blanc semblait agiter sa crinière de neige. Il expliqua tout, d'une voix presque éteinte, en essayant des gestes d'admiration avec ses bras rouillés, et derrière lui, les jeunes mariés souriaient, heureux de son bonheur. Ils lui offrirent à dîner dans l'auberge bâtie au bord du lac. Ils lui firent donner un bon lit. Le lendemain matin, à l'aube, quand l'agneau se fut habillé, il se dirigea vers la chambre de ses clients pour les réveiller, selon l'habitude des guides qui doivent faire l'ascension du lion blanc. Mais les excursionnistes ne dormaient pas, ils parlaient. Et l'agneau entendit le mari qui disait à sa femme « Est-ce que nous l'amenons là-haut ? Tu sais que ce sera plus dur qu'hier. » « Il nous faudra peut-être le hisser tout le temps. » Et la dame éclatait de rire en murmurant « Pauvre vieux !» L'agneau tressaillit. Il ne comprit pas d'abord. Il croisa ses mains tremblantes sur son bâton et resta bouche béante pendant quelques secondes. Il s'efforça de penser, de réfléchir, de se rappeler. Mais son cerveau était presque aussi impotent que ses jambes. Il parvint à comprendre quand même, pâlit légèrement, regarda ses poignets qui tremblaient de plus en plus sur son bâton, regarda ses jambes qui semblaient prêtes à vaciller sous lui, poussa un vague soupir et s'en retourna lentement, tout hébété, sans frapper à la porte des excursionnistes. Il alla s'asseoir au bord du lac bleu et considéra les cimes roses des montagnes. C'est là que ses clients le trouvèrent un moment après. « Eh bien, monsieur Lagnereau, lui disent-ils, nous n'allons pas au pic ?» Il n'y a peut-être pas de temps à perdre si nous voulons rentrer ce soir à Luc. » Mais le vieillard branla sa tête sans rien dire. Les touristes n'insistèrent pas, ils partirent seuls, après avoir recommandé à l'aubergiste d'avoir bien soin du vieux guide. Ils devaient le reprendre l'après-midi en redescendant vers Luc. L'agneau demeura assis. Il plongea sa main dans l'eau glacée du lac, qui se dégorgeait entre deux roches et s'en mouilla le front. Puis il resta immobile et regarda le soleil levant à pleine prunelle. L'aubergiste voulut le faire dîner à 10 heures, mais le vieillard refusa de se mettre à table. Il ne mangea rien, ne but pas davantage. Il s'écarta, essayant de marcher vers la chevelure de la Vierge, fut heureux de sentir un peu d'écume froide rejaillir des rochers jusqu'à son visage et s'assit là. À 2 heures de l'après-midi, les deux touristes le trouvèrent en cet endroit, évanoui et glacé. Ils l'enveloppèrent de couverture et lui mirent aux lèvres une gourde pleine de cognac. L'agneau se réveilla. Il ouvrit les yeux, regarda les excursionnistes, puis referma les paupières. Mais il sourit quelques instants après et montra ses yeux pleins de larmes. « Oh, pardon, » balbutia-t-il. « Vous êtes bien bon quand même. Oui, oui, bien bon d'avoir voulu me faire ce plaisir. Et tenez, si vous croyez à Dieu, laissez-moi vous dire que... je prierai tous les jours pour vous, jusqu'à ce que je sois mort. » Il se releva, il marcha derrière les jeunes mariés. Il accepta leurs bras dans les rampes difficiles. Il put rentrer le soir même à Luc de Born. Et le mari glissa 2 louis, pris de l'excursion, dans la poche de sa veste de velours au moment où l'agneau se retournait pour regarder une dernière fois le lion blanc. À dater de ce jour, le vieillard ne porta plus son costume de velours noir, ni son bâton ferré, ni sa brillante médaille de guide de première classe. On le vit quelque temps encore errer tout seul dans les rues de Luc, mais il paraissait vieilli de 10 années, ne parlait guère plus, était presque aveugle, semblait sourd. Il avait l'air d'un cadavre, dont le corps remuait encore quelque peu, mais dont l'âme s'en était allée, là-haut, dans la vallée de sa jeunesse, en face des pics éclatants, au pied des neiges éternelles, devant la chevelure de la Vierge. Ainsi s'achève le vieux guide de Jean Rameau.